Les grandes heures de la France par Octave Aubry. Chapitre 8e. Le roi Soleil. Mazarin et la Fronde. L'histoire de la France bat par soubresauts, elle est hachée d'ombre et de lumière. Tout semble fait, et puis tout se défait. Un grand règne, tel ceux de Philippe Auguste, de Charles V, de François Ier, de Louis XIII, et la nation paraît accomplie et vigoureuse, entrée déjà dans l'âge moderne. Un mauvais roi, des troubles intérieurs, une guerre malheureuse et ses destins sont remis en question. Puis soudain, elle rebondit. Par à-coups, bien plus que par étapes, elle se fortifie, elle se condense, elle prend sa figure définitive. En dépit des dents de scie qui l'entaillent, sa courbe constamment s'élève. Il en a été ainsi pour d'autres peuples. Mais nulle part les contrastes n'ont été aussi nombreux, aussi accusés que chez nous. Nulle part n'ont produit d'aussi profond remous l'instinct d'un pays, la valeur de ses hommes et les jeux du sort. La tutelle de Richelieu, si nécessaire, a été dans un temps trop court, 18 ans, trop stricte et trop impérieuse. Dès qu'elle échappe à ses longues mains, la France se détend, se délie, c'est une explosion. Comme elle va toujours aux extrêmes, la dictature la conduit à l'anarchie, puis l'anarchie la ramène à l'autorité. La minorité de Louis XIV est ainsi remplie presque entière d'une réaction sans frein contre la discipline imposée par le cardinal. Toute cette période trouble est dominée par Mazarin. Ce Sicilien, soldat et diplomate, sans recevoir les ordres, a gagné la pourpre par les services rendus à Richelieu et à la France. Voyant en elle son avenir, il s'est naturalisé français. C'est un bel âtre de 40 ans, sans vraie distinction, l'échine trop faite pour la révérence. Aventurier de haute volée, joueur effronté, très intelligent, très actif, très avide, très ingrat, il fuit le péril, à tantôt du temps et de la faiblesse des hommes. A-t-il aimé la France? Il s'est aimé soi-même et le pouvoir, et a surtout travaillé à sa fortune. Administrateur déplorable, souvent mal avisé dans sa politique intérieure, il a été dans l'étrangère un de nos chefs les plus heureux. Une chance singulière lui a valu d'achever les grands desseins de Richelieu. Au lendemain de la mort de Louis XIII, la cabale des importants veut abattre Mazarin, que la faveur d'Anne d'Autriche vient de faire premier ministre. L'Italien montre une vigueur qu'on n'attendait pas de lui. Beaufort, le chef de la cabale, est conduit au donjon de Vincennes et ses complices obligés de quitter la cour. Mais les difficultés financières dressent contre la royauté le Parlement, avide de jouer un rôle. C'est la première fronde, feu de paille, qui réapprend l'émeute à Paris, rouvre la France au désordre. À la fronde des robes succède celle des princes, dont le chef est Condé, le vainqueur de Rocroi. Mazarin croit en triompher rapidement, mais il a négligé Ray, petit Florentin noir et velu, aux jambes torses, aux yeux de taupe, bon manieur d'homme, avec cela très aimé des femmes. Ray ramasse les haines éparses, en fait bouler contre l'autre Italien. Parlementaires et grands seigneurs s'unissent. Trop faible devant eux, Mazarin se résigne pour un temps à quitter la partie. Et dès qu'il n'est plus là, comme il l'a prévu, ses ennemis en viennent aux mains. Condé doit mendier le secours des Espagnols. Il est battu au faubourg Saint-Antoine par Turenne, qui commande les forces royales. Mais Mademoiselle de Montpensier, fille aînée de Gaston d'Orléans, le sauve en faisant pointer sur Turenne les canons de la Bastille. Le sauvage désordre de Condé lui aliène vite les Parisiens. Il fait massacrer quelques conseillers bourgeois à l'hôtel de ville et molester le Parlement. Croit-il ainsi sauver la Fronde? Il la tue. Bientôt il lui faut abandonner Paris. Il offre son épée à l'Espagne, et, nouveau connétable de Bourbon en qui rien de national ne vibre, va pendant 6 ans, lui, prince français, combattre la France. Le jeune Louis XIV rentre à Paris en octobre 1632. Mazarin y revient peu après, bien reçu de ce peuple qu'il a bafoué et haï. Les rebelles sont pardonnés, sauf quelques chefs, dont Ray, obligés à l'exil. Le Parlement désabusé se tait. Rien ne s'oppose plus à la toute-puissance de Mazarin. Le résultat le plus grave de la Fronde, c'est l'orientation qu'en reçoit la monarchie. La royauté absolue, l'abandon de la nation au bon plaisir d'un maître, sort de cette crise tout armée contre Minerve. Elle ne sera pas, hélas, Minerve. Le souvenir du tumulte sanglant de Paris, des provinces redevenues des fiefs, qu'il a fallu rattacher une par une, ne quittera jamais la mémoire de Louis XIV. Il l'inclinera vers un gouvernement personnel sans limite, sans frein, sans soupape, vers un isolement grandiose qui le séparera du pays. Le 13 avril 1655, le Parlement ayant voulu discuter le détail de quelques édits, le roi, en costume de chasse, beauté, cravache sous le bras, paraît dans la grande chambre. « Chacun sait, dit-il, durcissant sa jeune voix, combien vos assemblées ont excité le trouble dans mon état. J'ai appris que vous prétendiez encore les continuer. Je suis venu ici tout exprès pour en défendre la continuation. » Et ce garçon de 17 ans, dans le silence des magistrats à tête grise, sort, dédaigneux. Louis n'a pas dit « l'État, c'est moi », mais il le pense, et la France s'en tire avec lui. Le roi désormais s'annexe, il s'incorpore l'État. La nouvelle Europe. La paix de Westphalie, le plus ample règlement international qu'on ait vu encore, clôt la guerre de 30 ans. Elle consacre la défaite de l'Autriche, son renoncement à ses plans d'absorption de l'Allemagne et par conséquent d'hégémonie européenne. La France reçoit l'Alsace, sauf Strasbourg, et quelques places sur le Rhin, Pignerol en Piémont, soit les clés de l'Allemagne et de l'Italie. Les princes allemands, nos alliés, sont fortifiés et agrandis. L'indépendance des Provinces-Unies et de la Suisse est solennellement reconnue. Fin des rêves de Charles Quint, triomphe de la politique française depuis François Ier. Le 24 octobre 1648. L'Espagne n'a pas signé en même temps que l'empereur. Il faudra encore 11 années de lutte et que Turenne écrase Condé à la bataille des Dunes pour qu'épuisé, sans argent, Philippe IV consente à traiter. La paix des Pyrénées est, elle aussi, le couronnement d'une œuvre séculaire. Elle termine l'âpre conflit des deux nations où la France, à plusieurs reprises, a failli succomber. C'est d'ailleurs une paix modérée qui n'accable pas le vaincu. L'Espagne nous cède le Roussillon et la Cerdagne, l'Artois et une série de places fortes en Flandre qui nous assurent une frontière sérieuse au nord-est. Marie-Thérèse, fille aînée de Philippe IV, épouse Louis XIV. Mazarin meurt le 8 mars 1661 en apparat, maquillé comme un acteur, ayant jusqu'à la fin, avec son principal collaborateur Colbert, travaillé aux finances. Petit dame, il a dirigé de grands événements, obtenu d'amples résultats. Sans avoir, quoi qu'il ait prétendu, jamais été français, il a bien servi la France. Le roi. Le lendemain de la mort de Mazarin, Louis XIV réunit les secrétaires d'État et dit au chancelier Le Tellier : « Monsieur, je serai à l'avenir mon premier ministre. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai. J'ordonne de ne rien signer sans mon consentement. » Le maître, qui parle ainsi, n'a pas 23 ans. Aucune instruction, même aucune lecture. Il n'est en rien préparé aux affaires. Pourtant, il porte en toute chose un sens juste et droit. Il aime le travail. Le métier du roi lui paraît délicieux. Mazarin lui a conseillé de l'exercer par soi-même. Il n'avait pas besoin du conseil. Ce jeune ignorant possède une sorte de génie de la souveraineté. Un profond orgueil l'anime. Avec beaucoup de mémoire, peu d'esprit, rien de brillant ni de spontané, très secret, maître de ses mouvements et de sa langue, sachant écouter et réfléchir, infiniment jaloux du pouvoir, bien qu'il se laisse influencer, il va vivre et gouverner pendant plus d'un demi-siècle avec une noblesse, un équilibre, une majesté, un instinct de la grandeur qu'aucun prince n'a égalé. Au physique, il est de taille moyenne, bien fait, membru, avec une poitrine renflée que l'âge épaissira. Un teint vermeil, piqueté de petites véroles, des yeux bruns veloutés qui, avec la lèvre inférieure avancée et lourde, viennent des Habsbourg. Un long nez, légèrement courbé, qu'il tient des Bourbons. Un menton d'autant plus saillant qu'il porte toujours la tête en arrière. Jeune, l'ensemble est plaisant. A de l'élégance, une grâce un peu distante, due sans doute à une ancienne timidité. De politesse exquise, il parle peu, rit rarement. semble impassible mais n'est point sombre d'humeur. Au contraire, il gardera jusqu'à la fin un tranquille optimisme qui lui vaudra sa magnifique attitude des mauvais jours. Avec peu de sensiblerie, il est fort sensuel. Les femmes joueront un long rôle dans sa vie. Gros mangeur, il a besoin d'user son sang par l'exercice. Après le travail dans son cabinet, il lui faut la danse, la marche, la chasse et dans les premiers temps, la guerre. Roi de plein air, même roi campagnard, il se déplaît dans les villes. Paris, il l'exècre pour sa foule inclinée au tumulte, son inconstance, son esprit railleur. Il y paraîtra parfois, n'y résidera jamais. Son avènement est une aurore. Richelieu et Mazarin ont tout préparé pour un grand règne. La France, depuis des années, le sentait venir. Elle admire ce roi imposant et beau, se donne à lui de cœur. La noblesse est matée jusqu'à la bassesse. Le clergé se détourne de Rome pour se souder en une forte église française, toute soumise aux demi-dieux vivants. La bourgeoisie répare ses pertes et s'épanouit. De toute la nation émane un grand désir de stabilité et d'ordre. Elle se croit sûre de sa puissance, de ses destins, qu'elle remet entier à son chef. Colbert. Fouquet, surintendant des finances, disgracié, Colbert, noir bourgeois déjà mûr, sorti du négoce, passionné de travail, exact et bourru, qui sait les secrets de politique et d'argent du cardinal, va diriger la majeure partie de l'administration centrale et tout l'organisme des provinces par les intendants qui lui sont soumis. Il ne sera pas premier ministre, c'est entendu, mais il sera un très grand ministre, le seul grand, à la vérité, qu'a eu Louis XIV. Colbert veut enrichir la France, c'est-à-dire lui procurer le plus possible d'or et d'argent. Dans ce dessein, il va assainir les finances, développer l'industrie et le commerce. Il abolit partie des douanes, des péages, facilite les transports, répare les routes, fait creuser de nombreux canaux, surtout le fameux canal des deux mers, confié à Riquet et qui unit la Méditerranée à l'océan. La marine marchande est décuplée par un système de primes à la construction. Trois ports francs sont ouverts, Marseille, Bayonne et Dunkerque. Cinq compagnies de commerce à monopole se partagent les diverses régions du monde. Notre pavillon sillonnant les mers les plus lointaines rivalise avec ceux des Hollandais et des Anglais. Si attentif à la mer où il a reconnu la sécurité comme l'avenir de la France, c'est l'un de ses plus hauts mérites, car presque tous les yeux alors sont rivés sur le continent, Colbert a été le vrai créateur de notre marine de guerre. Il construit dans ses chantiers de Marseille et du Havre près de 300 navires. Pour recruter les équipages, il organise l'inscription maritime. Il améliore et fortifie Brest, Toulon, Dunkerque, crée entièrement Rochefort. Pendant un quart de siècle, grâce à lui, la France va posséder la première marine militaire du monde. Notre empire colonial date de lui. Il rachète les Antilles devenues des domaines particuliers, développe, organise le Canada, y établit plusieurs milliers de paysans normands et bretons. Québec devient une véritable ville. Nos missionnaires pénètrent jusqu'au centre du continent. Les indigènes sont gagnés et protégés. Cavelier de la Salle descend le Mississippi et reconnaît la Louisiane qui sera bientôt colonisée par d'Iberville. Ce n'est point tout. Il ouvre des comptoirs, envoie des pêcheurs, des colons, des marchands à Terre-Neuve, en Guyane, au Sénégal, aux Indes. Pondichéry est fondé par François Martin. Un peu plus tard, s'élèvera Chandernagore. Son impulsion ici a été irréprochable. Elle donnera des fruits magnifiques que la monarchie, trop tournée vers l'Europe, laissera compromettre, puis périr. En outre, Colbert a eu le souci, et d'une façon touchante, dans un homme si brut, d'alléger la misère des paysans. Il protège les familles nombreuses. On l'entendra parfois dire avec mélancolie « Je voudrais pouvoir rendre ce pays heureux ». Heureux, hélas, ce pays ne le sera point. Les guerres, les dépenses des bâtiments, le gouffre de la cour détraqueront le système financier de Colbert, alourdiront encore les impôts déjà lourds et vicieront les réformes inspirées par un esprit trop en avance sur les mœurs, les habitudes, les préjugés de son temps. L'apogée du règne. Colbert semble avoir été le bon génie de Louis XIV, un bon génie point assez écouté qui finira dans la disgrâce. Peut-on dire que Louvois, le ministre, qui après Colbert a joué le rôle le plus en vue dans ce règne, en ait été le mauvais génie. Il faut distinguer. Son œuvre constructive est considérable. Comme Colbert a créé la marine, il a créé l'armée française moderne. Mais son influence sur le roi a été détestable. Il l'a flatté dans ses goûts ruineux. Il l'a poussé vers une politique d'arrogance et d'arbitraire qui a exaspéré l'Europe, l'a dressée unie contre nous. D'intelligence brillante, travailleur assidu, plus qu'énergique, brutal, mais l'échine souple à l'égard du roi, il a conquis vite sa faveur. Louis XIV croit l'avoir formé aux affaires. Rien n'attache plus les souverains. Ce gros jeune homme a mine de laquais, ce butor, comme on l'appelle à la cour, dont il est détesté, lui devient vite indispensable. Louvois balance bientôt l'influence de Colbert en attendant, par un effort perfide, de la démanteler. Dès qu'il règne, Louis inaugure une politique d'orgueil. La haute idée qu'il a de soi, de sa couronne, de sa mission en Europe, lui fait prendre une attitude de roi des rois. À la mort de son beau-père Philippe IV, il réclame les Pays-Bas pour sa part dans la succession. Turenne envahit la Flandre, Condé la Franche-Comté. Promenade militaire. Les Espagnols se défendent peu et mal. L'empereur les abandonne. Mais les provinces unies nouent contre Louis XIV une alliance avec l'Angleterre et la Suède et cherchent à imposer leur médiation. Le roi croit prudent alors de traiter. L'Espagne lui cède à Aix-la-Chapelle presque toute la Flandre française. Nous sommes en 1668. Pour Louis XIV, ce traité n'est qu'une trêve. Les Hollandais l'ont contrecarré dans son entreprise. Il veut châtier ses marchands ingrats. Colbert l'y incline, du reste. Inquiet de la concurrence commerciale et maritime de la Hollande, il souhaite sa destruction. Les Hollandais, pour résister au tout-puissant monarque, se remettent aux mains d'un dictateur. Le prince Guillaume d'Orange, qui est nommé Statoudère, Guillaume, éternel malade aux yeux vitreux qui ne sourit qu'aux batailles, rend la guerre désespérée inexorable. Le pays entier disparaît sous l'eau. Les villages sont incendiés. L'armée française demeure collée aux dernières digues, enlisée dans la boue. 6 années, la guerre se traîne. Les ennemis de Louis XIV s'épuisent. Lui-même sent le besoin de la paix. On traite à Nimègue. C'est l'Espagne venue au secours des Hollandais qui paye les frais de la guerre. Elle abandonne la Franche-Comté. Le roi de France, salué par Paris, du nom de Louis le Grand, semble l'arbitre de l'Europe. Mais déjà sa puissance a vu s'élever contre elle de fortes barrières. Ce long conflit a ruiné le système financier de Colbert. En vain réclame-t-il de la modération, de l'économie, une durable période de paix. Son astre a baissé et celui de Louvois monte au zénith. Après ses succès, ses années de force et de gloire, où la France a fait un pas nouveau vers sa forme définitive, les abus, les fautes, vont remettre en question son équilibre et sa grandeur. L'absolutisme. Louis XIV, de bonne foi, croit son autorité sans limite, sans partage, sans contrôle. Sur la terre, il est l'émanation de Dieu. Il est Dieu. Son pouvoir a revêtu un caractère surnaturel. Lui désobéir tient du sacrilège. La volonté de Dieu, écrit-il, est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement. En retour, il se donne entièrement à sa fonction royale. Chaque jour, il s'entretient avec ses ministres, préside des conseils, reçoit des ambassadeurs. Il veut être au fait des moindres choses. Il décide sans hâte, avec un sérieux examen, en pensant toujours à ne rien ordonner ni exécuter qui soit indigne de soi, du caractère qu'on porte, ni de la grandeur de l'État. Mot sincère et noble. S'il y a chez Louis XIV une infatuation excessive, on trouve en lui une admirable noblesse et une conscience complète de son devoir. Vraiment religieux, profondément catholique, il se fait le défenseur étroit de l'orthodoxie. Il persécute les jansénistes, les poursuit, ferme leurs monastères. Sa politique à l'égard des protestants a des conséquences infiniment plus graves. C'est dans l'ordre intérieur la faute principale du règne. Pénétré du souvenir des guerres de religion, le roi a toujours détesté la réforme et ses sectateurs. Puisqu'ils s'écartent de sa foi, il voit en eux des rebelles. Louis XIV commence par rogner les droits que l'édit de Nantes leur a accordés. Sans proscrire encore leur culte, il le rend difficile, interdit aux réformés les fonctions publiques et les professions libérales. Enfin, par les dragonnades, il entame une campagne rigoureuse de conversion forcée. Les abjurations, par intérêt ou par peur, sont nombreuses. Louvois et les intendants, par leur rapport, persuadent bientôt au roi qu'il ne reste presque plus en France de religionnaires. Il décide alors de révoquer l'édit de Nantes. Les protestants ne pourront plus s'assembler. Les pasteurs devront quitter le royaume. Les enfants seront élevés dans la religion catholique. Loin de se soumettre, les Huguenots, en masse, abandonnent leurs biens et commencent leur exode. En dépit de la surveillance exercée aux frontières, un peuple quitte le royaume. Des régions entières sont désertées. 60 000 exilés volontaires vont porter en Hollande, en Suisse, en Allemagne, leur travail, leur savoir, leur argent. Enrichissement notable pour les États voisins, appauvrissement marqué pour la France, où les protestants comptaient parmi les sujets les plus laborieux et les plus utiles. Les bandes de révoltés dans les Cévennes soutiennent 10 ans une guerre atroce contre les soldats du roi. Les revers. En pleine paix, Louis, influencé par Louvois, se livre à une série d'actes parfaitement arbitraires à l'égard de ses voisins. Il occupe Strasbourg et s'empare de Casale. L'Europe proteste. Elle est divisée, paraît impuissante. Mais Louis XIV, par la révocation de l'édit de Nantes, a perdu ses derniers alliés protestants. Vers la fin de 1686, presque tous les États du continent sont dressés contre lui et liés par la Ligue d'Augsbourg. Les grands serviteurs ont disparu. Colbert, Turenne sont morts. Louvois va mourir. Au ministère, des commis. Aux armées, des courtisans. Pourtant, 2 chefs de guerre encore. Luxembourg et Catinat. Aussi la lutte entre l'Europe et Louis XIV sera-t-elle agitée, périlleuse, hérissée de péripéties. Avec des alternatives diverses, elle ne va pas durer moins de 8 ans. 1689 à 1697. À la fin, l'Europe renonce à abattre Louis XIV et Louis XIV à juguler l'Europe. On traite à Ryswick. La France garde dans l'ensemble ses nouvelles frontières. Sacrifiant Jacques II Stuart, Louis XIV doit reconnaître l'usurpateur Guillaume III pour roi d'Angleterre, concession qui éprouve durement son orgueil. La France est très lasse. Tout commande au roi la modération, la réserve et la paix. Par malheur, des considérations dynastiques vont l'engager dans une entreprise nouvelle, celle-là désastreuse, et dont il ne sortira que par un étonnant sursaut, la guerre de la succession d'Espagne. Le roi d'Espagne, Charles II, dont la vie s'est traînée dans une maladive enfance, n'a point d'héritier direct. Le fils de Louis XIV, l'électeur de Bavière, l'archiduc Charles d'Autriche, ont des droits presque équivalents à la somptueuse succession. L'occasion est unique pour la France de s'assurer par un partage ses frontières naturelles. Louis XIV entre d'abord dans cette voie. Après de longues négociations avec l'Angleterre et la Hollande, il accepte de laisser attribuer au prince de Bavière, puis, quand celui-ci meurt, à l'archiduc Charles, l'Espagne et ses colonies. Le dauphin recevrait Naples, les provinces basques, le Milanais qu'il échangerait ensuite contre la Lorraine, la Savoie et Nice, et peut-être même une partie des Pays-Bas. Politique irréprochable, conforme au sentiment national et aux plus sûres traditions capétiennes. Mais Charles II, pour éviter le morcellement de son héritage, fait noblement taire son aversion pour la France et lègue l'ensemble de ses possessions au second fils du dauphin, Philippe d'Anjou. Quand son testament est ouvert, Louis se trouve à la fois devant un double problème, problème de conscience et problème politique. Doit-il respecter les traités ou accepter la succession pour son petit-fils? Mal conseillé par le dauphin et par Torcy, neveu de Colbert, il choisit, contre l'intérêt français évident, pour l'intérêt de sa maison, de sa race. « Voici le roi d'Espagne, » annonce-t-il gravement à sa cour en lui montrant le duc d'Anjou. La guerre est inévitable, guerre dynastique, non plus française. Elle mène le pays au bord de l'abîme, et il semble un moment que tout soit perdu. Après de dures défaites, Louis essaye d'obtenir la paix. Il offre de céder l'Espagne à l'archiduc, d'abandonner l'île, Maubeuge, même l'Alsace. On exige davantage. Que les armées françaises s'unissent aux alliés pour détrôner Philippe V. Alors le vieux roi se révolte. J'aime mieux, dit-il, faire la guerre à mes ennemis qu'à mes enfants. » Par une lettre lue dans toutes les paroisses, il en appelle à son peuple qui s'enrôle en masse. Il fait fondre sa vaisselle d'or et d'argent. Plus de fêtes, tout pour la guerre. Cet admirable effort succède. Billard est vainqueur à Denain, la France est sauvée. La paix générale est conclue à Utrecht et à Rastatt en 1713. Ces traités très importants établissent en Europe un ordre nouveau qui va durer pendant la majeure partie du XVIIIe siècle. Les Bourbons sont maintenus avec Philippe V sur le trône d'Espagne. De nouvelles monarchies se forment, promises à un vaste avenir. Le duc de Savoie devient roi de Sardaigne. L'électeur de Brandebourg se transforme en roi de Prusse. L'Angleterre garde Gibraltar et Minorque. L'Autriche reçoit les Pays-Bas, le Milanais et Naples. La France lui abandonne quelques villes de Flandre. Ce qui est plus grave encore, elle cède à l'Angleterre une partie notable de son empire colonial. L'Acadie, Terre-Neuve, la baie de Hudson. Affaiblissement de la France, prépondérance de l'Angleterre, disparition de l'Espagne comme puissance de premier plan, tels sont les résultats de la politique ambitieuse de Louis XIV. À l'intérieur, le pays lèche tristement ses plaies. L'industrie et le commerce ont péri. Plus de travail pour les ouvriers. Les campagnes se dépeuplent. Le pain manque. Les paysans se nourrissent de glands, d'écorces de fougères. La France entière, écrit Fénelon, n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provisions. Partout des troubles. Le roi peut voir de ses fenêtres les troupes affamées parcourir Versailles. Stoïque, majestueux, il se campe dans son palais assombri par les deuils. Rien ne l'ébranle. Il n'entend pas les plaintes, il repousse les critiques. Il finit lugubrement, mais avec une noblesse jamais démentie, présidant jusqu'à sa dernière heure ses conseils, tenant sa cour, près de mourir de la gangrène qui lentement envahit ses jambes sans qu'il se soit jamais abaissé à une plainte, il dira seulement à son arrière-petit-fils, enfant de 5 ans, héritier fragile et nécessaire, « J'ai trop aimé la guerre et les bâtiments. Ne m'imitez pas en cela, ni dans les trop grandes dépenses que j'ai faites. » Le 1er septembre 1715, il s'éteint, presque abandonné, non pas en saint et en héros, comme l'écrira Madame de Maintenon, mais en grand roi. Un grand roi, certes, le plus somptueux de notre histoire, et dont l'éclat, la gloire, après tant d'années et d'événements, nous touche encore. Mais en dépit de l'importance du règne, des acquisitions utiles et d'un rayonnement qui fait retentir le nom français jusqu'au cœur de l'Asie, ce grand roi, par ses erreurs, par l'ordre tyrannique auquel il a soumis ses peuples, a ouvert la voie à une immense sédition des âmes. Ce divorce d'esprit avec la nation, après les fautes de ses successeurs, souvent commandés par les siennes, aboutira à la Révolution.